Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Ouzi-Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, vous avez pris connaissance sur vos médias préférés du résultat des élections pour la 20e Knesset. Maintenant, on sait que le Likoud de Benjamin Netanyahou est le plus à même de diriger le prochain gouvernement d'Israël avec le support des partis d'extrême droite et celui des religieux ultra-orthodoxes. Malheureusement, cette campagne s'est massivement transformée en plébiscite du Premier ministre sortant et les programmes politiques n'ont pas été débattus. Alors, sur nos trentaines, nous allons aborder une question fondamentale qui a brillé par son absence, celle de la paix avec les Palestiniens et, ce faisant, avec l'ensemble du monde arabe. Pour en parler, nous avons invité David Shemla, qui est le secrétaire général européen de J-Call, c'est-à-dire Jewish Call, en français, la paix de juif. David Shemla, vous êtes avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour David Shemla. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter, mais alors très très brièvement, ce qu'est J-Call, ses moyens et ses objectifs ?
J-Call est un appel lancé en 2010, il y a 9 ans maintenant, au Parlement européen par un certain nombre de personnalités juives européennes, dont Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Cohen Bendit, pour citer certains d'entre eux, dont l'objectif était de faire valoir l'urgence de la solution à deux États pour sauver Israël comme État juif et démocratique. Donc tout le monde connaît la situation. Maintenir l'occupation, c'est dangereux dans la mesure où on ne peut plus conserver sous occupation près de 3 millions d'habitants qui réclament une indépendance. Les intégrer, c'est leur donner de la renationalité, donc Israël ne deviendrait plus un État juif, et ne pas leur donner de la citoyenneté, Israël perdrait, disons, les fondements de sa démocratie. Donc voilà, c'est ça l'objectif de J-Call, et nous sommes soutenus par personne, si ce n'est par nos propres adhérents.
Très bien, et vous êtes dans plusieurs pays européens.
Tout à fait, en Belgique, en Suisse, et bientôt en Espagne, en Italie, en France évidemment.
D'accord. Alors David Shemla, vous étiez en Israël, là, vous êtes rentré très récemment, et pendant toute la durée des élections, vous y avez rencontré de nombreux dirigeants et militants du camp de la paix. Comment se sent-il après le nouveau succès de Benjamin Netanyahou? Et quelle est leur analyse de la situation aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont inquiets quant au devenir du processus de paix et à la reprise des négociations?
Personne ne parle de processus de paix depuis longtemps. Ce n'était pas du tout un enjeu des élections, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Personne n'a parlé des questions essentielles. On parle de la paix parce qu'effectivement, ça nous semble être l'élément le plus important pour l'avenir de l'État. Mais il y a des tas de questions sociales qui n'ont pas été abordées. Les questions des transports, de la situation des hôpitaux et j'en passe. Non, rien n'a été abordé. C'était un plébiscite pour ou contre Netanyahou qui a amené cette campagne à niveau des plus bas depuis l'histoire du pays en faisant des attaques personnelles contre Benny Gantz, son adversaire principal, lui prétendant qu'il n'avait pas tous les moyens pour pouvoir diriger ce pays, qu'il n'était pas compétent. Je ne veux pas descendre au niveau de toutes les insultes qui ont fusé pendant quelques semaines, mais c'était vraiment déplorable. Le camp d'en face, effectivement, il y avait pour la première fois une alternative qui s'est construite avec Benny Gantz, qui est un homme qui est rentré depuis peu en politique, un homme probablement, qui n'avait pas d'expérience politique, qui vient directement de l'armée, et qui a réussi, malgré tout, voyons le côté positif, à créer une alternative crédible. Le soir même des élections, il y avait 3 sondages qui faisaient concurrence à 10h du soir sur les chaînes télévisées israéliennes. Un des 3 sondages donnait une avance de 4 points à Benny Gantz, ce qui lui a d'ailleurs conduit un peu trop rapidement, a déclaré qu'il était le vainqueur. Bon, mais ça, ce n'est malheureusement pas la première fois que, comme on dit, on s'endort avec Shimon Peres et on réveille avec Netanyahou. C'était le cas déjà en 96 où Netanyahou avait battu Shimon Peres avec le décompte des voix finaux. Voilà. Donc, tout ça en conclusion, une campagne déplorable. Les questions fondamentales n'ont pas été abordées. Alors, que va faire le camp de la paix, comme on l'appelle? D'abord, le camp de la paix mouvements internes un peu galvaudés qui représentent beaucoup de choses, des partis, des ONG. Bon, effectivement, ils doivent tirer les conclusions.
C'est une facilité de langage.
Oui, c'est ça. Donc, chacun doit tirer les conclusions. Sur le plan politique, je pense qu'il y a un débat intéressant qui commence à émerger. Vous savez, bon, Israël, ce qui a caractérisé cette campagne, c'est d'abord la multiplicité des listes. Il y avait 41 listes. Hein. C'était incroyable. Je crois que ça a été le summum depuis la création de l'État. Une douzaine d'entre elles ont passé le seuil minimum de 3,25%, qui correspond à 4 députés. Donc, il y a eu des tas de listes qui n'ont pas pu atteindre ce seuil et leurs voix ont été perdues. Donc, et notamment, ce qui est intéressant, c'est aussi une baisse relativement importante du taux de participation. C'est-à-dire que c'est une campagne qui n'a pas mobilisé autant que cela aurait dû être le cas, probablement à cause du niveau de la campagne. Et on a constaté une baisse du taux de participation, surtout dans le secteur arabe. Vous savez qu'il y a à peu près 20% de la population arabe en Israël, chrétienne ou musulmane, et habituellement, ils votent pour les partis qu'ils représentent, et la précédente Knesset, ils avaient 13 députés. Cette fois-ci, au décompte final, ils ont finalement que 10 députés qui vont les représenter. Alors, pourquoi cette baisse ? C'est important de l'analyser.
Ils se sont séparés.
Il y a un rejet qu'ils ont de leur propre parti, de leurs dirigeants. Ça, c'est le premier point. Ça, ils voulaient le manifester. D'autre part, la loi de l'État-nation votée il y a quelques mois, présentant Israël comme l'État du peuple juif uniquement et ne parlant plus de démocratie, de citoyenneté pour tous ces d'égalité de citoyenneté pour tous ses habitants, quelle que soit leur origine, en contredisant la charte de l'indépendance qui avait été rédigée à l'époque par Ben Gurion, donc a provoqué une scission encore plus grande entre les Arabes israéliens, les citoyens arabes israéliens et les partis, les dirigeants du pays. Donc tout cela, ça conduit une baisse de leur participation qui se traduit par moins de députés et qui indirectement renforce le camp de la droite. Voilà. Alors, compte tenu de tout cela, il y a probablement une réflexion en cours au niveau politique, déjà, peut-être de constituer des partis, à la limite, dans le futur, peut-être des rapprochements entre juifs et arabes dans des partis communs. Alors, ça, c'est un point important parce que, d'abord...
Hadashtal, déjà, est un parti judéo-arabe.
Oui, mais Hadash n'est pas vraiment un parti. Il se présente comme un parti judéo-arabe, mais c'est un parti très nationaliste pro-palestinien, je dirais, et représente, disons, une frange un peu idéologique qui dans laquelle, de plus en plus, après ce que j'ai entendu, d'Arabes ne se reconnaissent plus. Beaucoup d'Arabes, maintenant, et il y a quelques députés, d'ailleurs, qui ont été élus sur ces listes qui vont mettre l'accent là-dessus, veulent travailler sur des thématiques plus concernant leur réalité quotidienne. Ils vont plus s'occuper de la question palestinienne. Ils veulent travailler et aborder les problématiques d'inégalité, de chance, d'éducation, des moyens mis à disposition dans les communautés et les conseils régionaux arabes, etc. Donc, plus s'occuper d'eux-mêmes. Alors ça, c'est un phénomène intéressant parce que ça peut conduire à des évolutions. L'autre point dont on parle un petit peu, c'est d'ailleurs l'éditorial du journal Arrête ce matin, c'est de remonter encore plus le seuil d'éligibilité. C'est-à-dire qu'au lieu de 3,25%, de monter peut-être à 8%, ce qui permettrait de faire des regroupements plus importants de partis et d'éviter que des petits partis deviennent, dans des coalitions, imposent leur vue pour gagner alors qu'ils représentent que 3 ou 4% des électeurs. Et ça, c'est un point qui pourrait être intéressant, une piste intéressante à suivre. Alors évidemment, tous les petits partis vont s'y opposer, mais ça peut peut-être conduire à un regroupement, surtout dans le camp de la gauche, qui était morcelé entre les travaillistes qui ont perdu beaucoup de voix, le parti Meretz, c'est le nouveau camp libéral de Gantz, qui est lui-même un assemblage de différentes personnalités. Et résultat, il faut constituer une alternative crédible. Et si Gantz, c'est le candidat de ce camp-là, il faut probablement lui donner les moyens de se le présenter pour la prochaine élection, si c'est encore lui qui sera à sa tête. Et donc voilà, toutes ces réflexions sont en cours. Ça, c'est au niveau politique.
J'ai juste une question à vous poser. Dites-moi, aujourd'hui, sur quelle force politique le camp de la paix peut s'appuyer à la Knesset ? On a l'impression que quand même, il y a moins de soutien politique maintenant au Parlement israélien qu'il n'y en avait auparavant.
Non, enfin, ça n'a pas fondamentalement changé. Prenez par exemple la liste de Gantz, qui a obtenu 35 députés. La précédente Knesset, le parti travailliste avec la liste de Tzipi Livni avait 24 députés et la liste de Yesh Atid dirigée par Lapid avait 11 députés. 24 et 11, ça faisait 35. Et il y en a 35 dans la liste de Gantz. Donc, on voit que c'est simplement un regroupement. Alors, il y a eu probablement des transferts. Certains du parti travailliste ont voté massivement utile, ce qui explique que le Parti travailliste n'ait que 6 députés dans cette Knesset-là aujourd'hui, et le Meretz a perdu un député aussi par rapport à ce qu'il avait précédemment, donc il y a eu un vote utile qui a joué en faveur de la liste de Gantz, mais il représente en gros la force qu'avait le Parti travailliste et Yesh Atid il y a 4 ans. Donc ça, c'est ça reste. Le Parti Meretz, évidemment, est le parti qui a toujours été engagé clairement sioniste pour la paix, pour la base, sur la base de deux États, ils resteront toujours présents, actifs. Au sein donc du Parti travailliste, c'est la tendance aussi, la position officielle du parti, c'est effectivement la solution à deux États. Quant à la liste de Gantz, comme il n'a pas voulu aborder les questions fondamentales...
C'est une question que je voulais vous poser, ça. Quelle est la position de Gantz là-dessus?
Il a voulu attirer les électeurs du Likoud. Alors, une partie d'entre eux peut-être sont passés, mais pas énormément. Et probablement, puisque le résultat montre qu'il y a un fort soutien de Netanyahou au sein de son électorat, ça n'a pas bougé. Malgré toutes les affaires de Netanyahou, et ça pose un autre problème dont je parlerai tout à l'heure, sur le niveau de la moralité de la société israélienne aujourd'hui, qui est très très en baisse, et ça c'est encore, à mon sens, encore plus grave que la question de la paix. Résultat, donc, cette liste de Gantz n'ayant pas abordé les questions fondamentales, mais on sait qu'il a laissé entendre qu'il est contre le fait qu'Israël contrôle une population qui ne veut pas de ce contrôle. Donc, probablement que c'était sous-entendu, peut-être deux États en tout cas, ou une séparation des Palestiniens, il l'avait évoqué plus ou moins, mais il ne voulait pas vraiment l'affirmer, espérant comme ça, dans le flou, attirer l'électorat de la droite.
On comprend bien, David Chemla. Dites-nous, est-ce qu'il faut prendre très au sérieux les promesses d'annexion des colonies juives en Cisjordanie faites par Netanyahou en fin de la campagne électorale? Il a fait ça dans les tout derniers jours de la campagne électorale. Il a dit qu'il allait annexer les colonies. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui nous pend au-dessus de la tête?
Alors, d'abord, Netanyahou a voulu, et il a réussi, il a été un excellent stratège, tout le monde le reconnaît, il a voulu que le Likoud soit le premier parti. Et il a réussi, puisque finalement, il a maintenant 36 députés, et la liste de Gantz en a 35. Okay. Donc, et pour cela, il a siphonné les voix des électeurs des partis qui étaient sur son extrême droite. Notamment la liste de Bennett, la Nouvelle Droite, un parti nouvellement créé par une scission du foyer juif, dirigé par donc Bennett et Ayel Shaked, deux ministres très importants du précédent gouvernement, deux personnalités qui sont très charismatiques, qui avaient un électeur et qui ont un électeur surtout auprès des jeunes, un soutien auprès des jeunes. Cette liste-là n'est finalement pas rentrée à la Knesset, dernier décompte hier soir, en tenant compte des voix des soldats que l'on a après 24 heures après le vote du pays, finalement, cette liste-là n'entrera pas et Bennett et Shaked ne seront pas à la Knesset. Donc Netanyahou avait fait toutes ces déclarations-là pour attirer cet électorat et il a probablement réussi à le faire. Ça, c'est le premier point. Maintenant,
Il nous reste une minute, David Chemla.
Une minute?
Ouais, ça passe très vite.
D'accord. Donc, alors, tout ça est lié au plan Trump. Probablement le plan Trump, le deal du siècle, donc on attend une présentation prochainement, d'après ce que disent les Américains. Bibi Netanyahou le connaît, ce plan. Alors est-ce que dans ce plan, il a prévu une annexion ou pas? Probablement c'est le cas. Et il semblerait que Netanyahou veuille, échanger un soutien des partis d'extrême droite pour qu'il conserve l'immunité parlementaire dans les affaires qui le concernent, les affaires juridiques, en échange d'une annexion d'une partie de la Cisjordanie. Donc on va vers des moments très difficiles.
Ok. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, David Chemla, de nous avoir présenté un point de vue un peu différent, mais important. Et à bientôt. Alors, pour tous ceux que ces élections passionnent, un rendez-vous à noter, lundi 15 avril à 20h30 au Cercle Bernard-Lazare, 10 rue Saint-Claude à Paris 3e, métro Sébastien-Froissart. David Chemla et Tamar Sebok, la correspondante du Yediot Aharonot, commenteront les résultats avec les derniers chiffres connus. C'était Paul Ouzimeyerson à l'antenne avec Chronique pour la paix. Shabbat Shalom à tous et à dans 15 jours.
Vous êtes bien sur Judaïque FM, la radio du judaïsme français.